qualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. L'antenne vous appartient. Ce matin, RFI vous donne la parole pour commenter le processus de paix au Mali. D'autant qu'il y a tout juste un an, le 20 juin 2015, les groupes armés du Nord signaient un accord avec le gouvernement, un accord visant à garantir l'unité et l'intégrité territoriale du pays, ce qui avait suscité, rappelez-vous à l'époque, un immense espoir au sein des populations. Alors certes, le cessez-le-feu est respecté entre les deux camps, mais le processus est quasiment au point mort. L'accord prévoyait en substance la démobilisation, le désarmement, la réinsertion des combattants, mais aussi la reconstruction de l'armée malienne et son redéploiement sur l'ensemble du territoire, ou encore la mise en place d'assemblées intérimaires dans le Nord. Un an plus tard, il n'en est rien. Alors pourquoi est-il si compliqué d'appliquer l'accord de paix ? Qui est responsable finalement de cette lenteur ? Nous en parlerons ensemble grâce à vos appels, vos commentaires, vos témoignages. Vous qui habitez le Nord, on a envie de vous entendre évidemment ce matin sur l'antenne d'RFI. Vous nous contactez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos réactions sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Bruno est en ligne. On va commencer avec Bruno qui nous appelle de Nîmes, dans le sud-est de la France. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous avez des questions concernant le procès d'Oscar Pistorius.
Voilà, le procès Pistorius s'est ouvert en Afrique du Sud. Pourquoi a-t-on besoin d'un deuxième procès ? Son état d'anxiété peut-il influencer le verdict ?
Alors, état d'anxiété effectivement mis en avant la semaine dernière par un psychologue. Bonjour Alexandra Brangeon.
Oui, bonjour.
Vous êtes la correspondante permanente d'RFI en Afrique du Sud. Alors effectivement, comme le rappelait Bruno la semaine dernière, l'ancien champion paralympique a de nouveau comparu devant la justice. On se souvient qu'il y a 2 ans, il avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. Pourquoi donc un deuxième procès ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une nouvelle condamnation, mais cette fois-ci pour meurtre. Alors, revenons un peu en arrière sur les faits. Février 2013, donc il y a 3 ans, l'athlète handicapé tue sa petite amie. Au milieu de la nuit, il tire à travers la porte des toilettes dans lesquelles se trouvait Riva Steenkamp. Oscar Pistorius affirme qu'il a tiré, croyant qu'il s'agissait d'un voleur. Le parquet affirme que le couple s'est disputé et que l'athlète a sciemment tiré sur sa petite amie. Le procès va durer 6 mois et en septembre 2014, vous l'avez dit, il est reconnu coupable d'homicide involontaire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de tuer quand il a tiré. Il a été condamné à 5 ans de prison, il a purgé 1 an, qui est le minimum, et ensuite il a été libéré sous condition, donc assigné à domicile.
Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Et on se souvient, Alexandra Brangeon, qu'après donc cette condamnation de 5 ans de prison, le parquet avait fait appel du verdict.
Voilà. Pour le procureur, il n'est pas concevable de tirer sur quelqu'un, même à travers la porte des toilettes, sans imaginer qu'on puisse tuer. Et donc la Cour suprême d'appel s'est penchée sur le jugement et en décembre dernier, donc en décembre 2015, elle a revu le verdict et a reconnu cette fois-ci Pistorius coupable de meurtre. La Cour d'appel n'a pas remis en cause la version de l'accusé, hein, qui affirme qu'il croyait un cambrioleur, mais elle a estimé que Pistorius, en tirant 4 balles de gros calibre à hauteur d'homme, à travers la porte des toilettes, ne pouvait pas ignorer qu'il risquait de tuer quelqu'un et donc qu'il y avait intention criminelle. Ça, c'était en décembre dernier. Ça n'impliquait pas un nouveau procès, mais simplement une nouvelle délibération pour modifier la peine de prison. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puisque pour meurtre, la peine minimale est de 15 ans de prison. Donc la semaine dernière, on a vu le parquet et la défense appeler leurs témoins pour tenter d'influencer donc cette nouvelle peine.
Ouais, justement, la semaine dernière, la défense a appelé à la barre un psychologue, et ce dernier a affirmé qu'Oscar Pistorius était un homme brisé psychologiquement, qu'il avait des crises de panique, des crises d'anxiété. Est-ce que ce témoignage peut influencer la justice ?
Oui, c'est bien pour ça qu'il est venu témoigner. Le psychologue en question, c'est Jonathan Schultz. Il était le premier témoin de la défense, donc des avocats de Pistorius. Il a effectué plusieurs évaluations de l'athlète avant et après son incarcération. Et la semaine dernière, devant la tout court, donc il a témoigné que Pistorius était un homme brisé psychologiquement, qu'il avait un niveau d'anxiété inquiétant. que son état mental s'était considérablement détérioré depuis 2014 et que son état de santé nécessitait une hospitalisation, ajoutant que retourner en prison aurait un effet négatif. Voilà, c'est un témoignage qui, bien évidemment, a pour but soit d'atténuer d'atténuer la sentence. Le procureur, de son côté, a contre-attaqué, accusant le psychologue d'être biaisé dans son évaluation et affirmé que Pistorius n'avait pas changé et montre toujours autant de remords. Donc voilà, ce sera donc à la juge, Tocosile Massipa, de réévaluer la peine. À noter que c'est la même juge qui a prononcé la peine en première instance. Normalement, elle doit annoncer sa décision le 6 juillet. Une dernière chose, le parquet voudrait une application stricte du code pénal, soit une peine de 15 ans minimum. La défense, elle, espère entre 8 et 12 ans de prison, compte tenu de l'handicap de l'athlète, voire même une partie de la peine purgée à domicile, en assignation à domicile. Et puis, ce sera peut-être pas la fin de cette saga Pistorius, puisque les deux parties peuvent encore faire appel après cela.
Voilà, donc 15 ans de prison minimum, c'est la peine prévue par la loi sud-africaine, et on verra effectivement si la justice se montre plus douce, plus clémente à l'égard d'Oscar Pistorius. On suivra tout cela de près donc le 6 juillet prochain avec vous, Alexandra Branjon. Bruno, on a répondu à vos questions ?
Oui, merci beaucoup. C'est très bien expliqué. Merci.
Eh bien, merci de votre fidélité et continuez à nous écouter sur Internet à Nîmes, où il fait beau, j'imagine, contrairement à Paris. 10h16 ici, dans la capitale française. Vos questions à la rédaction. Alors, on me dit que non, on n'a pas tasséré. Malheureusement, le réseau téléphone avec Ouagadougou est saturé. Pourtant, j'ai 1, 2, 3, 4 numéros pour contacter l'auditeur. Mais malheureusement, aucune des lignes ne passe correctement. Bonjour Véronique Guémard.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir ce matin. Vous êtes journaliste au service international des RFI, vous présentez tous les week-ends la chronique des droits de l'homme, et justement Tasséré, qui est à Ouagadougou, nous dit voilà, le président Obama n'a pas réussi à fermer Guantanamo alors que c'était une promesse électorale de 2008. Quelle est aujourd'hui la position de Donald Trump et celle d'Hillary Clinton à ce sujet? J'imagine que comme sur de bien d'autres sujets, Clinton et Trump ont des positions divergentes.
Totalement divergentes. En résumé, Donald Trump veut maintenir Guantanamo, mais sans dépenser un centime. Et Hillary Clinton, elle, est sur la ligne d'Obama. Elle veut fermer le camp de détention, transférer les prisonniers considérés comme les plus dangereux dans des prisons de haute sécurité sur le sol américain. Alors, on va rappeler un petit peu la genèse de la prison militaire de Guantanamo, ouverte en janvier 2002, après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est une création donc de l'ère du président George W. Bush, qui a placé dans cette base militaire américaine sur l'île de Cuba ce qu'il a appelé non pas des prisonniers de guerre, mais des combattants illégaux, des combattants ennemis, qui n'existent pas en fait dans le droit international humanitaire. Alors des prisonniers pour la plupart transférés d'Afghanistan, mais aussi du Yémen, d'Irak, d'autres pays. Des prisonniers qui ont été torturés, maltraités pendant des années avec privation de sommeil, vexation permanente, nourris de force lorsqu'ils étaient en grève de la faim. Des détentions infinies, souvent sans procès, ou devant des cours militaires spéciales à huis clos.
Ouais, et au plus fort de l'utilisation de ces camps de détention, quelques 700 personnes y ont été enfermées.
Oui, et Guantanamo était devenu donc le symbole du trou noir juridique, du non-respect du droit international humanitaire, une tâche contraire aux valeurs de l'Amérique, une honte, une abomination morale pour un pays qui se dit champion de la démocratie, un outil de recrutement aussi pour les djihadistes. Et du coup, Barack Obama avait promis de fermer Guantanamo. C'était effectivement une de ses premières promesses de campagne dès 2007 d'ailleurs.
Ouais, et on se souvient même qu'au lendemain de son investiture en 2009, il signait un décret pour fermer Guantanamo.
Exactement, c'est le premier décret qu'il a signé. Et selon lui, Guantanamo est contraire donc aux valeurs américaines et constitue, il l'a dit, un outil de recrutement dans la propagande des terroristes. Alors aujourd'hui, il reste environ 80 prisonniers à Guantanamo. La grande majorité des détenus ont été déclarés libérables, même sous l'administration Bush. Obama a accéléré donc les transferts d'ex-prisonniers vers des pays qui les ont acceptés sur leur sol. Arabie Saoudite, Afghanistan, Pakistan, Algérie, Yémen, Albanie, France. Il y en a eu quelques-uns en France. En Uruguay également. Et à Guantanamo, sur les 80 qui restent, seule une dizaine a été jugée. Le reste est en attente justement de procès ou de libération. Selon le secrétaire d'État à la Défense, la moitié d'entre eux ne peuvent pas être libérés car trop dangereux. Et à la fin de l'année, il pourrait encore en rester une soixantaine. Et le gouvernement cherche donc un lieu pour les transférer dans une prison de haute sécurité aux États-Unis. Et enfin, fermer ce camp de Guantanamo, mais le Congrès s'y oppose.
Alors concrètement, Véronique Guémard, que propose Hillary Clinton? Finalement, la même chose que Barack Obama?
Oui, la candidate à l'investiture démocrate, Hillary Clinton, assure qu'elle soutient la position de Barack Obama. En février dernier, Barack Obama a justement proposé un nouveau plan pour fermer le camp de détention de Guantanamo et donc transférer les prisonniers considérés à haut risque, donc les plus dangereux, dans des prisons de haute sécurité, comme je le disais, donc sur le territoire américain. 13 lieux ont été proposés pour les transférer dans des prisons supermax, hein, c'est comme ça qu'on les appelle.
Supermax.
Par exemple à Charleston, en Caroline du Sud, dans le Kansas ou dans le Colorado. Et après la présentation du président américain, Hillary Clinton a déclaré « Tout ce que j'espère, c'est que le Congrès travaillera avec nous dans ce sens ». Mais le dossier est épineux, vous vous en doutez, d'autant que le Congrès, à majorité républicaine, ne risque pas de changer d'avis, même en ce qui concerne la détention illimitée sans procès, pourtant contraire à toutes les règles de procédure. Du coup, Obama utilise aussi l'argument financier. Lorsqu'il a présenté son plan en février, il a bien dit « Nous pouvons assurer notre sécurité », donc en enfermant les plus dangereux dans des prisons de haute sécurité, donc supermax, sur le sol américain, tout en faisant économiser beaucoup d'argent aux contribuables américains. Cela coûtera moins cher de les enfermer sur le sol américain.
Donc si je comprends bien, même en cas de victoire, Hillary Clinton ne pourra pas réussir là où Barack Obama, pour l'instant, a échoué concernant évidemment Guantanamo. Que dit le candidat républicain Donald Trump ?
Alors Donald Trump, lui, ne prend pas de gants. Il promet tout le contraire d'Obama, tout simplement de conserver Guantanamo comme camp de détention pour les plus dangereux terroristes. Hors de question de les enfermer sur le sol américain, il ne faut pas prendre de risques. Il faut les garder, mais le plus loin possible. Nous allons même remplir le camp, a dit Trump en février, juste après qu'Obama a déposé son plan de fermeture du camp. Et sur les questions d'argent, il est catégorique. Il ne faut pas que Guantanamo coûte cher. Guantanamo, a-t-il dit, coûte 40 millions de dollars par mois pour moins de 100 détenus. Moi, je ne dépenserai pas 5 millions et même rien du tout. Voilà ce qu'il a lancé. Bon. En 2007, pourtant, lorsqu'il était candidat républicain à l'élection présidentielle, John McCain, vous en souvenez, avait rejoint l'avis de Barack Obama. Il fallait fermer Guantanamo, une position que le républicain avait d'ailleurs adoptée après avoir rencontré un combattant d'Al-Qaïda arrêté en Irak qui lui avait dit que cette torture infligée donc par les militaires américains en Irak et à Guantanamo avait justement fourni des arguments aux djihadistes qui s'en servaient pour recruter. La torture encouragée par les Américains à cette période a aussi permis à d'autres pays de s'en prévaloir pour éliminer des gêneurs, par exemple des opposants. Mais en février, lors de la présentation du plan d'Obama pour fermer Guantanamo, eh bien le même John McCain l'a critiqué. C'est un plan trop vague, pas de réponse sur où transférer les détenus, sur le coup, rien de concret.
Effectivement, d'autant qu'il annonce que donc il ne dépenserait donc aucun dollar pour Guantanamo. En conclusion et rapidement, Véronique Guémard, Guantanamo a peu de chances finalement de fermer avant le 20 janvier, avant le départ de Barack Obama de la Maison Blanche.
Oui, très peu de chances. Hein. Il resterait sans doute une trentaine ou une soixantaine de détenus le 20 janvier encore. Barack Obama veut croire que le Congrès, malgré cette année électorale, qui est quand même très, très tendue, se penchera tout de même sur ce projet de fermeture de Guantanamo qu'il a présenté en février. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus ? Il pourrait peut-être forcer la main du Congrès en légiférant par décret. C'est peu probable, mais peut-être qu'il l'annoncera juste avant de quitter la Maison Blanche.
À suivre donc. Merci beaucoup Véronique Guémard et on salue évidemment Tasséré qui nous appelait de Ouagadougou au Burkina Faso. Dans 48 heures, vous le savez, on vous en parle sur l'antenne des RFI, les Britanniques se prononceront par référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Pour l'instant, les sondages semblent incapables de prédire l'issue du scrutin. En tout cas, vendredi matin, l'antenne des RFI sera largement consacrée aux résultats et ce sera l'occasion de nous poser toutes vos questions pour comprendre justement ce référendum, comprendre les arguments des pros, des anti-Brexit, les conséquences économiques, les conséquences politiques d'une sortie pour le Royaume-Uni de l'Union Européenne, même les répercussions évidemment pour les Européens. Toutes vos questions au standard. Vous pouvez d'ailleurs commencer à nous appeler 33 9 693 693 70. Nicolas Falaise du service international des RFI s'installe dans ce studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être venu répondre ce matin à une question qui nous est posée par Lamine. Bonjour Lamine.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes en Gambie et vous avez des questions concernant la situation politique au Bahreïn.
Effectivement, j'ai appris qu'au Bahreïn, le pouvoir Bahreïn a suspendu les activités de l'opposition. À ce sujet, je voulais savoir pourquoi cette la suspension de ces activités-là et en même temps, quelle est la conséquence de cette suspension sur la stabilité du pays.
Ouais, c'est vrai, Nicolas Falaise, qu'on assiste à un durcissement du pouvoir au Bahreïn, dans ce petit royaume du Golfe Persique. La suspension des activités de ce mouvement, qui est le principal mouvement d'opposition, j'imagine que c'est un coup dur, évidemment, pour les chiites, puisque les chiites sont aujourd'hui majoritaires et que désormais, ils n'ont plus, on va dire, de représentants politiques.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Alors, effectivement, vous faites bien de parler de formation. Hein. Il n'y a pas de parti politique à Bahreïn, ils sont interdits. Et c'est l'une de ces associations dont on parle, Al-Wifaq, ce qui veut dire l'entente en arabe, qui a été représentée au Parlement de Bahreïn ces dernières années. Et effectivement, on a appris la semaine dernière que la justice du royaume avait suspendu Al-Wifaq, accusé d'enfreindre les lois, de favoriser le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que les ingérences étrangères. En plus de cette suspension, il y a une procédure de dissolution qui est en cours. Et effectivement, on est à Bahreïn, un pays, vous l'avez rappelé, Rouen, où la majorité de la population est chiite, mais où la dynastie au pouvoir est sunnite. Et effectivement, c'est à travers ce prisme qu'il faut comprendre les tensions politiques en cours dans le royaume.
Oui, puisque la minorité sunnite contrôle tous les leviers du pouvoir. Il y a eu en plus d'autres arrestations et d'autres condamnations ces derniers jours sur place.
Oui, c'est une véritable série. Hein. Ali Salman, le chef de la formation Al-Wifaq dont on parle, a été condamné la semaine dernière à 9 ans de prison en appel. Cher Issa Qassem, qui est considéré comme le plus haut dignitaire religieux chiite de Bahreïn, c'était hier, a été déchu de sa nationalité. Nabil Rajad, défenseur des droits de l'homme très connu à Bahreïn et à l'étranger, a été arrêté il y a quelques jours. Il a effectué de nombreux séjours derrière les barreaux. Il est sorti de prison l'année dernière. Jeudi dernier, 8 personnes condamnées à des peines de prison, déchues de leur nationalité, accusées d'avoir voulu former un Hezbollah local du nom du mouvement libanais chiite. Alors il s'agit bien d'un durcissement de la politique répressive du pays, sachant que le pays vit dans un climat de tension hein, depuis les émeutes, les manifestations qui avaient eu lieu en 2011.
En 2011, on s'en souvient, on en avait parlé sur notre antenne. L'ami nous demandait finalement quelles peuvent être les conséquences de toutes ces décisions prises par le pouvoir sur la stabilité du royaume.
Alors pour parler de la stabilité de Bahreïn, il faut justement remonter à ces événements de 2011. À cette époque-là, on est dans le contexte des printemps, des soulèvements arabes dans la région. Et à Bahreïn, éclatent alors des manifestations pour demander une monarchie constitutionnelle. Mais encore une fois, la majorité de la population étant chiite, mais la dynastie sunnite, celle-ci se sent menacée. L'Arabie saoudite voisine se sent également menacée par ces troubles. Et ce sont des blindés du Conseil de coopération du Golfe qui, en 2011, mettent fin rapidement à cette contestation. Depuis, la situation reste tendue à Bahreïn. Il y a des manifestations, des heurts. Il y a aussi eu des attentats visant les forces de sécurité. Et en face, des arrestations, des condamnations, des mesures visant l'opposition. Le pays est régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme, mais on voit bien la politique répressive se poursuit et se durcit.
Ouais, se durcit, la majorité chiite donc qui dénonce des discriminations, elle se dit victime finalement d'isolation sur place. Comment les autorités, Nicolas Falaise, justifient toutes ces arrestations, toutes ces condamnations?
Alors le pouvoir bahreïnien dénonce sans cesse l'ingérence de l'Iran dans ses affaires intérieures. Le pouvoir affirme avoir recueilli des preuves de l'implication directe de l'Iran dans des attentats ou des projets d'attentats.
L'Iran, qui, rappelons-le, est chiite. Hein. Oui, et donc, qui soutiendrait exactement. Les chiites.
C'est la grille de lecture du pouvoir bahreïnien et de ses alliés, à commencer par l'Arabie saoudite. L'Iran, chiite, tenterait de déstabiliser le royaume en s'appuyant sur cette ligne de fracture d'opposition chiite-sunnite qui parcourt un grand nombre de crises de la région. À l'inverse, l'opposition bahreïnienne assure que ce sont les autorités qui attisent la dimension confessionnelle de cette contestation politique.
Il y a des réactions à l'étranger ou pas?
Oui, Ban Ki-moon, le numéro 1 de l'ONU, s'est dit inquiet, même consterné la semaine dernière. Les États-Unis, qui sont un grand allié de Bahreïn, ont émis des critiques ces derniers jours. Bahreïn, qui reste un allié proche des États-Unis, la 5e flotte américaine est stationnée dans le pays. Bahreïn fait partie de la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique.
On a répondu à vos questions, Lamine.
Effectivement, je suis satisfait.
Eh bien, on remercie Nicolas Falaise du service international d'être venu dans ce studio. Restez avec nous à suivre le journal et on revient dans 10 minutes. Nous dresserons ensemble un bilan du processus de paix au Mali un an après la signature d'un accord.
Priorité santé.